Merci à l'AFMSH d'organiser ce débat dans le cadre des Erasmus Day, en particulier à Jean-Pierre Dozon et Martha Crevéry. C'est une thématique importante parce que ça portait sur la question des migrations contraintes dans une longue période et avec à la fois l'exemple de la création d'un programme d'accueil récent en 2017 dont va parler Laura Loéac. Et je voudrais revenir sur tout d'abord ce concept de chercheur en danger, de migration contrainte intellectuelle qu'on utilise assez facilement et peut-être resituer à la fois ça dans un contexte tout à fait récent. Pourquoi c'est important aujourd'hui de parler de cette thématique, quelle en est l'actualité, mais aussi situer ça dans l'histoire un peu plus longue rapidement de la France, comment la France effectivement a accueilli, le champ scientifique a été transformé. Et j'aimerais aussi montrer comment ça s'inscrit dans une histoire globale de l'accueil intellectuel depuis plus d'un siècle. Et peut-être terminer sur des questions de l'engagement, de la responsabilité, parce que ce n'est pas qu'une histoire glorieuse. Alors, sur les intellectuels, les chercheurs en danger, pourquoi est-ce qu'un chercheur serait plus en danger qu'un autre, alors qu'il y a des populations civiles qui fuient, il y a des guerres? Si on prend deux événements marquants dans l'histoire récente, vous vous souvenez, août 2015, Palmyre, le grand archéologue Khalil Al-Assal, qui est né dans les années 30, a été exécuté. Son exécution a été montrée sur toutes les télés du monde. Le site a été lui-même mis en danger. Et là, l'État islamique a montré particulièrement la volonté de toucher des symboles de la pensée et de l'héritage mondial. Ensuite, la Turquie, janvier 2016, combat entre les rebelles kurdes du Parti des travailleurs et les forces régulières d'Ankara. Des enseignants se mobilisent, ils dénoncent les violations des droits de l'homme, ils signent une pétition et ils réclament la pourparlers entre le gouvernement turc et la rébellion. Des pétitions, on en signe tous. J'imagine, dans la salle, vous avez déjà signé des pétitions. Moi, j'en ai déjà signé. Et là, un putsch raté 7 mois après, et le gouvernement turc va se saisir de cette pétition pour dénoncer ces universitaires comme des suppôts du terrorisme. Et un premier décret va apparaître avec une liste de plus de 2300 universitaires. On a un témoin dans la salle de cette liste. Peut-être elle prendra tout à l'heure la parole. C'est Esmerel Yogun. Donc ici, vous voyez deux moments où là, on a, dans une situation de conflit armé, des universitaires qui vont fuir le pays comme les autres, mais qui sont particulièrement ciblés. Et dans l'autre cas, des universitaires qui peuvent être ciblés comme des journalistes, parfois certains chefs d'entreprise qui sont emprisonnés. En tout cas, ce sont les élites qui sont ciblées, et plus particulièrement la liberté d'opinion. Des journalistes ont été aussi emprisonnés. Ici, quand on parle de danger, ça vise, vous voyez, des grades très différents du danger. C'est-à-dire, ça peut être effectivement la mise à mort, et puis la mise à mort orchestrée, symbolique, diffusée. Ça peut être aussi la torture, comme dans les dictatures latino-américaines. Ça peut être la perte d'emploi, comme en Turquie. Le fait de ne pas pouvoir voyager, ça, c'est des atteintes à la liberté d'expression d'opinion qu'on retrouve dans différents pays. Donc là, il y a différents types de dangers qui menacent le fait d'être quelqu'un qui utilise sa pensée pour exprimer son opinion sur le monde. Alors, ce ne sont pas que des chercheurs en sciences humaines et sociales, ça, j'y reviendrai tout de suite. Donc ici, cette conception de chercheur en danger, c'est quelque chose, un concept qui a été forgé aussi dans le cadre de la transformation de la philanthropie américaine. Parce qu'il y a aussi une expression qui s'appelle scholar at risk. Donc les scholars at risk, ça va plus loin que simplement les chercheurs, ça peut être aussi des étudiants. Et on a eu aux États-Unis plusieurs mouvements philanthropiques qui se sont engagés pour l'accueil justement d'étudiants et de chercheurs sur des bourses, et notamment au travers de l'Institut de l'éducation internationale qui a été fondé en 1919 par plusieurs chercheurs, dont des prix Nobel, qui avaient été secrétaires d'État et qui ont contribué également à la Cour internationale de justice. Ce premier dispositif vise à accueillir des étudiants qui viennent de Russie. Donc, c'est les premiers accueils. En fait, c'est un dispositif qui permet de dépasser les quotas d'immigration. Mais c'est surtout au courant, au début des années 30, que ce dispositif va se transformer pour accueillir, en effet, tous les universitaires allemands déplacés, menacés de mort parce que persécutés comme juifs notamment. Donc ici, l'action philanthropique d'accueil international, assez classique en fait, va se transformer en lutte contre le totalitarisme et va se développer dans les deux parties du monde ensuite, au moment de la guerre froide, une concurrence sur l'accueil des universitaires. Il y a aussi toute une histoire d'Europe de l'Est qu'on connaît moins bien, qui va être l'accueil de personnes intellectuelles en danger, outre-Atlantique ou en Europe. En tout cas, en France, alors qu'il y a la guerre d'Espagne, un universitaire venu de Russie, Louis Rapkin, va contribuer avec le secrétaire d'État à créer un fonds qui va porter son nom, le fonds Louis Rapkin, pour accueillir tout d'abord donc plutôt des exilés espagnols, mais très vite aussi des exilés d'Europe de l'Est. Louis Rapkin va être obligé de partir lui-même aux États-Unis dans les années 40 et va contribuer, via une bourse Rockefeller, et va contribuer à faire l'accueil des universitaires français aux États-Unis. Ici, donc, en fait, on voit que depuis un siècle, on a stabilisé cette idée de scholar at risk, d'universitaires, de chercheurs en danger. Mais cette histoire de chasse des élites n'est pas nouvelle. C'est-à-dire qu'on en trouve dans les siècles auparavant. C'est-à-dire que là se construit aussi un discours de la philanthropie, c'est-à-dire qui suppose de récolter des fonds pour accueillir ces chercheurs. Puisqu'on est toujours dans une rupture, dans l'extraordinaire, avec des périodes de très grandes demandes, de demandes plus faibles. Et donc, cette histoire s'est écrite. Mais par exemple, pour prendre un sujet, puisque moi j'ai longtemps travaillé à Berlin, si on prend Lady Nantes et sa révocation en 1685, donc au XVIIe siècle, ce qui se passe, c'est quelques mois après, la Prusse ayant une population en décroît, qui est liée aussi à des famines, à des épidémies, aux différentes guerres, on a Friedrich Wilhelm, Guillaume, qui tout de suite promulgue un édit pour accueillir les protestants de France qui sont persécutés, les Huguenots. Et parmi ceux-là, évidemment, toute une population d'élite, à savoir de penseurs, mais aussi d'ingénieurs. Et c'est tous ces ingénieurs qui vont retransformer le paysage urbain de Berlin et aider au développement, à tel point que très vite, en quelques mois, un quart de la population de Berlin vient de France et sont très vite naturalisés. Même si on connaît l'histoire un peu plus tardive de Voltaire, mais Voltaire aussi a très tôt circulé entre différentes régions de France avant d'aller à Londres, où il a rencontré John Locke. Donc une partie de l'histoire aussi, de la philosophie française, est liée à cette hybridation. Et ensuite à Berlin, c'est une histoire assez connue. Et donc il y a différents moments où il y a des voyages, mais avec peu de personnes, même si dans le cas des Huguenots, vous voyez, il y a eu beaucoup de personnes d'un coup. Pour la France, si on reprend ce siècle d'histoire, on peut reprendre en trois temps l'histoire d'immigration en France. C'est-à-dire qu'il y a des migrations collectives et individuelles. Est-ce qu'elles sont différentes pour les chercheurs des autres migrations? Si on regarde la première période de l'accueil en France, c'est-à-dire aussi depuis les années 20 jusqu'à 1971, on a là des réfugiés en Europe qui viennent en France d'Europe ou de sa périphérie. Donc ça va être principalement d'abord la Russie, puis les Allemands, puis les Autrichiens, mais aussi les Arméniens. Et on aura, après-guerre, avec la signature de la Convention de Genève, également des Roumains, des Tchèques, des Polonais, des Hongrois, des Yougoslaves, etc. Des Grecs aussi. Et également, avec les guerres de décolonisation, des collègues d'Indochine et d'Algérie. Bon, après, certaines populations vont venir particulièrement comme des Tibétains, des Marocains, des Haïtiens, etc., des Chinois. Il y a un tournant dans l'accueil en France avec la convention dite de Bellagio qui avait été faite à New York. Et donc, elle est ratifiée, cette convention sur le statut de réfugié, par la France en 71. Ça, c'est un tournant dans l'accueil en France. Et ici, on a toujours, effectivement, la migration de populations est et sud européennes, mais également une population très importante d'exilés qui viennent d'Amérique latine, notamment les Chiliens, Uruguayens, Argentins d'une part, au milieu des années 70, et d'autre part d'Asie du Sud-Est, en particulier Cambodgiens, Sud-Vietnamiens. Donc ici, on a l'arrivée des boat people dans les années, la fin des années 70. Je ne vais pas ici déplier tous les accueils, hein, parce qu'après, il y a également le Rwanda, d'autres crises qui apparaissent avec l'arrivée en France. La chute du mur de Berlin en 89 va désigner un troisième temps de l'accueil en France, puisqu'on va transformer le type d'accueil, accélérer les procédures d'asile. Et là, on va avoir aussi des populations est-européennes qui vont affluer de nouveau vers la France et les pays européens, même si à cette période, ce sont quand même les populations de la Turquie qui restent, auprès de l'OFPRA en tout cas, les premiers demandeurs d'asile dans toute la période après 89. Les révolutions arabes après 2011 vont inaugurer une nouvelle période avec un accueil, cette fois-ci, libyen, irakien, syrien, yéménite. Et la Turquie, de nouveau, avec la grande purge d'Erdogan en 2016. Alors ici, vous voyez, il y a à la fois des arrivées collectives et individuelles, et la plupart des chercheurs vont arriver parmi ces populations. Et plusieurs établissements de l'enseignement supérieur vont prendre leur part à cet accueil. Bon, bien entendu, la fondation dont Jean-Pierre a parlé, l'école des études, qui est un grand lieu d'accueil. On a parlé de Touraine tout à l'heure, donc lui a accueilli beaucoup de collègues d'Amérique latine. Les universités à Grenoble, à Lyon, les établissements universitaires et les hôpitaux, les bibliothèques. Et le CNRS, INSERM, bien entendu, avec un accueil fléché sur des postes qui étaient à l'origine consacrés à des universitaires étrangers qui vont être reconvertis dans l'urgence. Donc ici, Jean-Pierre l'a dit, ça a permis la transformation de notre champ scientifique. C'est une histoire glorieuse de la science en France. Mais il faut voir que ce n'est pas seulement en sciences humaines et sociales. Par exemple, moi, je travaille sur l'Uruguay et on a fait un témoignage de Guillermo Diguero, qui est l'actuel ambassadeur d'Uruguay en France. Guillermo Diguero, qui est biologiste, médecin, était venu au moment de ses études faire un stage d'un an en France. Il est reparti. Il était invité sur un poste à l'hôpital pendant un an au moment de la dictature. Il a dû rester en France et faire venir sa famille ensuite. Mais là, du coup, c'est quelqu'un qui est revenu bien plus tard à Montevideo et c'est lui qui a créé le premier Institut Pasteur. Et l'Institut Pasteur, c'est quand même un des points forts de la coopération dans le monde. Donc vous voyez, il n'y a pas que les sciences humaines et sociales. Et là, on attaque un sujet important, c'est la différence parmi les scientifiques accueillis. Parce que, évidemment, nos disciplines, la sociologie, la science politique, l'ethnologie, la philosophie, sont des disciplines critiques pour le pouvoir, jugées souvent inutiles, comme on le voit en Turquie. Beaucoup de collègues viennent de sciences humaines et sociales. Mais lorsque les élites, comme les médecins, partent, ici, le pouvoir vacille. Et Smeray pourrait témoigner là-dessus. Et on va parler de brain drain, c'est-à-dire que là, l'Uruguay, 90% des académiques sont partis. Donc il y a un vrai problème à ce moment-là, effectivement, de fonction et de fonctionnement d'un certain nombre d'institutions, même vital pour les hôpitaux. Mais ensuite, toutes ces populations qui partent ont des enfants, ne reviennent plus. Et aujourd'hui, le gouvernement uruguayen est en train d'organiser une conférence pour réunir sa diaspora à travers le monde à Montevideo pour voir comment les faire revenir aujourd'hui en Uruguay. Vous voyez, c'est longtemps après ces événements, alors que la dictature est terminée. Bon, c'est pourquoi je voudrais juste aborder trois conséquences sur cette histoire et qui pourraient être l'objet d'un débat et de réflexion au-delà de l'histoire de l'impact. Tout d'abord, ben vous voyez bien, c'est une histoire souvent des illustres, souvent des hommes. Hein, on parle de Gurvitch, qui a quand même une salle à la Sorbonne, si je ne m'abuse pas, oui, depuis mes études. Bon, si on parle de l'immigration entre les deux guerres, on va parler de la figure d'Einstein, mais aussi pour nous, pour les historiens, d'Ernst Kantorowicz. Mais Il avait un collègue, qui, Werner Feld, qui était tout aussi connu avant le départ, qu'on a complètement oublié, et qui pourtant, ils avaient la même trajectoire. Bon, parfois, il y a des ratés aussi pour la France et d'autres pays. Par exemple, Norbert Elias, qui a fui l'Allemagne, qui est venu à Paris, qui n'a jamais trouvé d'accueil scientifique, mais qui l'a trouvé en Angleterre, heureusement. Ou bien on a cité la Grèce, donc on a accueilli Castoriadis. Donc, en fait, c'est l'histoire des étrangers qui ont fait la France et sa science. Mais il faut s'interroger tout le temps sur qui on n'accueille pas, parce que le contact et l'arrivée en France se fait souvent, pour les universitaires, grâce au réseau préexistant, à la reconnaissance. Donc, plus un universitaire va être engagé dans des réseaux internationaux, parler plusieurs langues, plus ça sera facile d'être accueilli. Et plus on sera pris dans des réseaux nationaux et parfois véritablement en danger, moins on ne pourra sortir de son pays ou être invité. Donc là, il y a quelque chose sur les dispositifs d'accueil. Et c'est vrai que le Scholar Rescue Fund International se félicite de l'intégration de ces universitaires à plus de 30% après l'accueil d'un ou deux ans. Mais souvent, il faut s'interroger sur qui on sélectionne. Donc vous voyez, on est pris d'un côté entre un accueil d'élite qu'on va pouvoir intégrer, dont on pourra profiter. Mais par ailleurs, la question de la philanthropie, c'est l'accueil en urgence et du danger. Et là, c'est d'autres types de critères. Donc là, il y a un paradoxe dans cet accueil sur lequel on doit réfléchir. Quels sont les dispositifs? Comment aider nos collègues, ceux qui sont souvent le plus en danger? D'ailleurs, ceux qui sont souvent le plus en danger ne peuvent même pas sortir de leur pays. Ils sont toujours menacés, comme les collègues turcs. Ensuite, une autre réflexion, c'est la question de l'accueil thématique d'actualité. Parce qu'au fond, dans les années 70, lorsque nos collègues viennent d'Amérique latine, la plupart du temps, ça ce sont les travaux de Marianne Amar, mais aussi d'Aline Angustures et de Sauvignard Kevonian, qui travaillent sur l'accueil administratif et sur les archives de l'OFPRA, finalement, on trouve peu d'universitaires dans les flux de réfugiés. Souvent, on n'a pas besoin de passer par cette case-là parce qu'il y a des invitations, on va pouvoir travailler et les choses se bricolent. Mais c'est un moment où l'accueil est assez facile pour des universitaires. Aujourd'hui, l'accueil est très difficile même pour des universitaires. Même si on va les accueillir, ils ont un visa, un passeport talent, mais le visa est lié au travail. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas de travail, que font-ils ? Illégaux reconduits à la frontière, quel est l'avenir des gens qu'on accueille en France? Là, j'ai été très touchée, je n'ai pas eu plus d'informations sur ce cas, donc je ne sais pas si les faits sont attestés, mais il me semble que ce week-end, un collègue venant du Sénégal est venu faire des recherches en France, il a été arrêté à Roissy et il a eu un enfermement de 48 heures. Donc là aussi, on a beaucoup de collègues qui veulent venir en France qui sont bloqués pour des raisons de visa et d'immigration. Donc en creux, ce ne sont pas que les chercheurs en danger, mais ça reflète aussi la nécessité de créer des fonds d'accueil, reflète aussi notre incapacité à avoir un système normal d'accueil d'universitaires étrangers, à la fois sur les visas, et ça pose la question sur la situation du marché académique en France, qui, comme il est en perte de poste, notamment en sciences humaines et sociales, a peu de ressources pour accueillir ses collègues étrangers en urgence. Si le CNRS et l'INSERM avaient des postes d'accueil dits rouges, après la chute du mur, ces postes ont été réintégrés progressivement dans le fonds commun. Et donc, les universités sont assez pauvres et les organismes aussi. C'est ce que Laura va vous expliquer pourquoi il a fallu créer un fonds d'accueil. Enfin, dernière question qui est un peu un clin d'œil, une perche à Jean-Pierre peut-être pour la discussion, c'est que finalement, quand vous regardez les rapports de Scholar at Risk, hein, chaque année, ils font un bilan des attaques sur la pensée qui décline avec les attaques... vous voyez, il y a la violence, les disparitions, les menaces de mort, l'emprisonnement, la persécution, la perte de position, la restriction sur les voyages et les déplacements, et puis d'autres formes d'attaques. Ici, on a plusieurs pays qui apparaissent. Bon, bien sûr, la Turquie, c'est évident. L'Éthiopie, c'est le top 5 des attaques actuellement. Bon, est-ce qu'on accueille tellement de collègues éthiopiens en France? Je ne suis pas sûre. Et dans la liste, on a beaucoup de collègues du Cameroun, du Nigeria, d'Algérie, etc. Et donc, la question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a dans nos collègues francophones d'Afrique subsaharienne beaucoup de collègues qu'on accueille aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des opérations de déclassement sur les chercheurs que nous accueillons? Est-ce qu'on les reconnaît comme des universitaires? Est-ce qu'on ne les oblige pas à venir comme des étudiants d'abord? Est-ce que ces chercheurs, quand on regarde bien leur parcours en Afrique, ne vont pas vers d'autres pays actuellement d'accueil? Le Canada, les États-Unis? Il faudrait peut-être s'interroger sur notre capacité d'accueil et de reconnaissance aujourd'hui, certes dans un marché académique contraint, mais notre capacité à mobiliser ces réseaux. Voilà.
Merci beaucoup. Oui, juste, hein, puisque tu m'as fait un clin d'œil autour des collègues ou chercheurs subsahariens, enfin d'Afrique subsaharienne. En effet, il y a là une difficulté, un problème, hein, et qui est souvent, comment dirais-je, indépendamment de la question de la demande d'un exil plus ou moins contraint, c'est plutôt compte tenu que beaucoup d'entre eux sont des pays francophones, hein, et donc. C'est plutôt notre capacité, ou plutôt notre faible capacité, à les accueillir indépendamment de toute, je dirais, contrainte. Hein. Et il y en a, évidemment, quand même, si on fait un recensement, il y en a dans les universités françaises, mais on le voit bien à l'école des hautes études. Par exemple, tu donnais l'école des hautes études comme un des lieux, étant aussi membre de l'école des hautes études, étant un des lieux de... où il y a eu beaucoup d'accueil de chercheurs étrangers, italiens en particulier. D'accueil pour des raisons, je dirais, pas forcément de demande, là aussi, liées à des contraintes. Mais en tout cas, c'était, comment dire, l'Italie était une sorte de partenaire tout à fait important dans l'histoire de l'histoire française, hein, tout simplement. Donc, voilà. Mais... la difficulté, par exemple, à faire élire un collègue africain à l'école des hautes études. Voilà, hein, c'est ça la question en elle-même. D'abord, peu d'entre eux se sont présentés et, comme candidats, craignant de ne pas être élus, précisément. Donc, il y avait comme une sorte de prérequis qui faisait que. Il y avait une sorte disant non, on ne va pas être pris, ce n'est même pas la peine. Mais ceux contentés, les quelques contentés n'ont pas été élus, précisément. Donc la preuve était apportée. Voilà. Donc là, c'est un vrai problème, et là qu'il faut examiner en tant que tel. Donc on va pas, il faudrait le traiter en tant que tel. Je dirais que. Il y a en plus aujourd'hui des pays d'Afrique, en effet, où. Il y a des nécessités pour eux de partir, je veux dire, indépendamment, si tu veux, de la circulation. Aujourd'hui, comment être un chercheur au Mali? Comment être un chercheur dans certains états du nord du Nigeria? Tu parlais du Cameroun. Aujourd'hui, avec le Cameroun anglophone, il y a des questions très importantes. Donc, voilà. Donc là, il y a véritablement des réflexions à avoir qu'on n'a pas eues, qu'on n'a d'autant pas eues qu'il y avait tout ce que je t'ai dit avant, tout ce que j'ai dit avant sur les difficultés dans une circulation des chercheurs, disons, une circulation normale, eh bien, les Africains étaient en effet très peu pris en compte, en quelque sorte, alors même qu'on était pourtant dans un univers de familiarité coloniale et post-coloniale. À cause de ça, à cause de ça.